de nos programmes.
Merci Claire, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama Suivez-vous Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 9 septembre, bien évidemment, les éliminatoires de la prochaine CAN Maroc 2025, le mondial des moins de 20 ans chez les dames et les Jeux Paralympiques de Paris, qui ont pris fin hier avec nous, comme d'habitude, Élisée Nkpatin, depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Nous retrouvons Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique.
Et ceux qui attendent Jules Valentin Ngoué, sachez que Michel Joseph est en train de faire des pieds et des mains pour qu'on l'opte. On l'a au téléphone depuis Douala, on espère bien que ça va marcher. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. À la course, à la prochaine CAN Maroc 2025 se poursuit avec les rencontres de la deuxième journée qui ont débuté hier. Trois matchs présentement en cours, Angola, Soudan, Éthiopie, République démocratique du Congo et Maroc, Lesotho. Le Maroc qui a fait un bon début avec une victoire 4-1 face au Gabon. On écoute tout de suite Amine Birouk.
Il y a le score et il y a la manière. Voilà deux choses qui sont diamétralement opposées dans ce match-là. Le score par sa largeur, 4-1, prouve que l'équipe du Maroc a un potentiel de folie sur le plan offensif et dire que les attaquants ont loupé de très nombreuses occasions. Et puis, sur le plan défensif, il y a eu l'envers du décor avec une organisation poussive, une défense poreuse et un Yacine Bounou impérial, XXL, avec de multiples arrêts, de multiples parades. Aubameyang a manqué un pénalty et Bounou a fait l'essentiel pour maintenir son équipe devant au score à la mi-temps de 2-1. Deuxième période, un recadrage par rapport à ses tractions avant, par rapport à ses milieux de terrain offensifs qui ne font pas le boulot en matière de repli, notamment Ziyech, Khenous et Brahim Diaz. Les choses se sont améliorées avec évidemment le premier but international de Brahim Diaz et la conclusion finale avec Ayoub Kabi encore en mode killer, lui qui avait relayé en cours de match Sofiane Rahimi. Beaucoup de choses, d'éléments à mettre en relief par rapport à cette équipe du Maroc qui a prouvé qu'elle avait une animation offensive qui pouvait tenir la route face à des équipes qui défendent en bloc médian bas. Mais en même temps, il y a beaucoup d'améliorations. Autant dire, autant résumer que le Maroc version régrégée post-Coupe d'Afrique des Nations est encore en chantier.
Voilà, Amine Birouk qui nous parlait donc de cette rencontre Gabon-Maroc. Écoutons à présent le capitaine des Panthères gabonaises, Pierre-Emerick Aubameyang.
Bah, on va commencer par le Maroc, ils ont fait un très grand match. Nous, on peut avoir un peu de regret parce que je pense qu'on s'est bien battu, mais on a vu qu'on pouvait mettre ce Maroc en difficulté. Mais je pense qu'on n'a pas été assez tueur devant quand on a eu l'opportunité. Et après aussi, Yacine Bounou qui fait un super match. Je pense qu'il va falloir avoir beaucoup de détermination. Le prochain match, c'est à domicile, devant notre public. Donc forcément, ça va nous galvaniser et il va falloir mettre un peu plus d'impact, que ce soit dans les duels, mais aussi, comme je l'ai dit, être tueur dans les deux zones franches, devant et derrière. Ouais, j'aime beaucoup Hakim. On a partagé pas mal de temps ensemble à Chelsea. C'est comme un frère. Donc, j'étais content de le revoir. Ça fait plaisir. Et puis, de jouer contre des joueurs comme ça, c'est toujours plaisant.
Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, donc, qu'on écoutait tout à l'heure au micro d'Amine Birouk depuis Agadir, où se joue présentement le match entre le Maroc, justement, et la République centrafricaine. Alors, Jules Valentin Ngoué est en ligne. Jules, vous êtes sur WhatsApp. Pierre-Emerick Aubameyang le disait tout à l'heure, il y a quand même quelques regrets pour les Panthères gabonaises dans ce match face au Maroc.
Oui, mais ce match qui se joue au Maroc, qui s'est joué au Maroc entre le Gabon et le Maroc était plutôt un match, à caractère peu amical dans la mesure où le Maroc est déjà qualifié et où les Gabonais devaient surtout roder leur équipe pour affronter leur adversaire principal qui est la République centrafricaine. Et dans cette, à ce niveau-là, ils se sont heurtés à une équipe marocaine qui s'est imposée par cette individualité et ça a été une longue disons épreuve de tir au but où Aubameyang, le leader de l'attaque gabonaise, a raté un de ses essais, ce qui a automatiquement penché le match au niveau disons du côté du Maroc.
Voilà, et donc ce soir, un début mitigé face au Burkina Faso, match nul, un but partout, le Sénégal s'est relancé en battant le Burundi 1-0. Amdine Sy, belle opération pour les Lions de la Teranga, dont la stratégie bien sûr du coach Aliou Cissé est de plus en plus critiquée.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison. Hein. C'était le match du rachat, parce qu'il ne fallait pas rater ce match après le but concédé à domicile face aux étalons du Burkina Faso. Donc, Aliou Cissé, qui est très critiqué en ce moment au Sénégal, a un peu chamboulé son 11 de départ en amenant 5 changements par rapport au 11 de départ qui avait affronté les étalons. Cela a porté ses fruits, on peut dire, puisque le Sénégal a finalement gagné par 1-0 sur un pénalty, il faut le dire, très litigieux. D'abord, le fait de siffler un pénalty, ça pose problème parce que, franchement, il n'y avait pas matière à siffler un pénalty. Ensuite, la faute, ou soi-disant faute, ne s'est pas passée dans la surface de réparation. Mais c'est comme une aubaine qui vient, un cadeau tombé du ciel pour le Sénégal. Et Ismaël Assar n'a pas tremblé, il a réussi à transformer ce pénalty qui permet au Sénégal non seulement de se relancer, mais de prendre la tête de ce groupe L avec 4 points, puisque le Sénégal a déjà une victoire, un match nul. Donc le Sénégal est leader de ce groupe en attendant quand même le match du Burkina contre le Malawi. Le Burkina qui a réalisé une très très belle opération à Dakar, puisque non seulement ils ont tenu tête au niveau du jeu face aux Lions de la Teranga, mais qu'ils ont marqué. Ils ont montré dans ce match qu'ils avaient le mental, parce que menés au score, ils ont continué à faire leur jeu en bousculant les Lions pour pouvoir égaliser au bout du temps additionnel à la 95e minute. Pour le moment, on peut dire qu'on ne retiendra que la victoire pour le Sénégal, puisque c'est une opération rachat. Maintenant, on attend de voir.
Le Ghana lui a fait match nul, un but partout face au Niger après sa défaite à domicile contre l'Angola. Élisée, les Black Stars semblent être au bord de la rupture quand même.
Bien évidemment, surtout quand on suit un peu le match, la prestation laisse à désirer. Vous imaginez, le Ghana qui peine depuis des années et on a l'impression qu'à chaque année, cette équipe dérangole. Et vraiment, le niveau de jeu que présente le Ghana aujourd'hui, franchement, c'est déplorable. Donc, le Ghana doit vite se reprendre. Ce n'est pas des joueurs qui manquent dans ce pays. Et bien, la relève a été très difficile à préparer et on remarque cela clairement. Aujourd'hui, le Niger a fait un match parfait. Le Niger a causé trop de problèmes. On l'a d'ailleurs vu à domicile face à l'Angola où les palancas des Grasses n'ont pas quand même eu beaucoup de difficultés pour prendre les 3 points. Aujourd'hui, dans ce groupe, le Ghana se trouve dans une situation très délicate, il faut le dire, puisque seuls les 2 premiers seront qualifiés aujourd'hui. C'est vrai qu'on est encore très loin de la qualification, mais n'oublions pas que la qualification se joue cette année 2024, puisqu'il y aura 6 matchs en moins de 3 mois, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, 6 matchs en 3 mois, si vous imaginez, ça va très très vite et le Ghana doit vite se reprendre afin de faire partie de ces pays-là qui iront jouer la CAN au Maroc.
Cette deuxième journée a débuté hier avec le match remporté par la Tunisie en Gambie 2-1. Avec 6 points, les Aigles de Carthage s'envolent déjà, il faut le dire, en tête du groupe A devant la Gambie, les Comores et Madagascar. Alors Jules, c'est bien parti pour les Tunisiens qui font généralement de bons éliminatoires, même s'ils n'arrivent pas à prouver pendant les phases finales. C'est quand même paradoxal. Jules. Bon, je pense que Jules a visiblement, disons, fermé son micro. Il va l'ouvrir d'ici là. En attendant, on va marquer une courte pause dans ce numéro d'Esporama et on revient tout de suite. Les matchs de cette deuxième journée se poursuivent demain mardi. Plusieurs rencontres au programme. Amdinsi, Eswatini, Mali, les aigles maliens doivent visiblement se relancer.
Ah oui, les aigles maliens qui ont déjà, il faut le dire, puisqu'ils ont concédé un nul à domicile, comme ce qui s'est passé avec les Lions de la Teranga, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils doivent s'imposer pour se relancer pour la course à la qualification. Comme Elie l'a dit tantôt, hein, cette formule, c'est 6 matchs en 2 mois. Donc, il faut être déjà prêt. On enchaîne presque chaque mois de matchs. Chaque mois, 2 matchs. Donc, toute erreur sera fatale pour même les grandes équipes. C'est pourquoi, moi, je pense que les Maliens doivent réagir et je pense qu'ils vont bien réagir pour pouvoir se relancer dans la course à la qualification, Yacouba.
Voilà, et donc un match très attendu du côté donc de l'Eswatini, disons. Il y a une autre rencontre aussi qu'il faut suivre de pair, et Jules Valentin Ngoué est de retour avec nous. Jules, tu l'avais dit, pendant le match Maroc-Gabon, c'était une sorte de préparation. Cette fois-ci, demain, eh bien, les Panthères devront faire face aux Fauves du Bazoubangui, et là, c'est beaucoup plus sérieux.
Bien sûr, ça c'est un match à élimination directe, en fait, en phase aller-retour, tout simplement. Parce que dans cette poule, les deux équipes sont des équipes, disons, du même niveau. La SCA est une équipe, qui est émergente, qui a failli d'ailleurs jouer la dernière CAN en Côte d'Ivoire et qui l'a raté de peu face au Ghana. Et de l'autre côté, nous avons le Gabon qui se maintient toujours dans le deuxième chapeau des tirages au sort. Donc là, nous avons une rencontre à élimination directe où la RCA, disons la Centrafrique, a déjà pris de l'avance en gagnant le premier match. Et donc, c'est au Gabon de faire la différence. Et le plus souvent, on le sait, l'équipe gabonaise aime souvent être attentiste et jouer en compte. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Il faudra qu'elle mette de la vitesse et qu'elle prenne de l'avance.
Et justement, Jules, on reste avec vous. On a également Zimbabwe et Cameroun. Un match très attendu également. Malgré les quelques soucis, on le rappelle, entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, ça marche pour le moment en tout cas pour les Lions Indomptables, vainqueur 1-0, on se rappelle, de la Namibie à Garoua.
Bien sûr, mais ça marche bien depuis les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, puisque les Lions Indomptables ont récupéré tous leurs joueurs cadres. Ils ont tout leur effectif au complet. On n'a plus le problème des binationaux qu'on ne lâche pas. Et donc, l'équipe est à son niveau réel. Donc, la victoire contre la Namibie va conforter cette union sacrée, ne serait-ce qu'autour des joueurs qui, sur le terrain, font leur devoir et qui auraient pu gagner plus largement ce match. Et cette fois-ci, rencontre le Zimbabwe. Et il ne faut pas l'oublier, c'est pas à Harare, c'est à l'extérieur, c'est à Kampala. Et à ce niveau-là, les deux équipes iront à égalité au niveau en ce qui concerne le public. Mais les Lions Indomptables tiendront à faire le break pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en fin de parcours.
On espère bien qu'il n'y aura pas d'ambiguïté en fin de parcours. Élysée, Bénin, Libye, les Guépards, désormais, ont quand même été battus 3-0 par le Nigeria. Cette fois-ci, ça n'a pas marché pour les Guépards. Il faudrait véritablement se relancer face aux Libyens.
Oui, bien évidemment. Et les Libyens qui ont été tenus en échec à domicile 1-1 par le Rwanda lors de cette première journée, les Béninois doivent vite réagir hein, parce que, comme je l'ai dit, ça ira très très vite. Mais c'est une grande déception hein, de voir que en espace d'un mois, eh bien, le Bénin tombe si facilement, même si le match a eu lieu du côté de Uyo au Nigeria, et bien Kenneth Roy, qui a été ancien entraîneur du Nigeria, d'ailleurs il a quitté le Nigeria pour le Bénin et qui n'a pas pu quand même limiter les dégâts. C'est une grosse déception aujourd'hui à Cotonou, même depuis hier, et bien ça parle, ça grogne sur les réseaux sociaux. L'entraîneur pointé de doigt, vous imaginez que le classement a été réellement critiqué. On ne se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une fébrilité défensive en absence de Mohamed Tidjani. Eh bien, le Bénin n'a pas pu contrer les attaquants nigériens et qu'aujourd'hui, on encaisse un but dans les arrêts de jeu de la première partie. C'est inadmissible que le Bénin doit vite réagir face à la Libye. C'est un match très très difficile. La Libye est une équipe très difficile à jouer. La dernière confrontation le prouve déjà, puisque le Bénin l'a battu difficilement à Cotonou 1-0. Et comme cette fois le match aura lieu à Abidjan, vous imaginez. Donc tout ce que le peuple béninois attend aujourd'hui, c'est la réaction des Guépas afin de se repositionner dans ce groupe qui commence pas à montrer que c'est un groupe difficile.
Parlons à présent du mondial féminin des moins de 20 ans. Quatre pays représentaient l'Afrique. Le Maroc, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Deux rejoignent les huitièmes de finale, le Nigeria et le Cameroun, pardon. Alors, Jules, même si c'est face au Brésil en huitième ce mercredi, les Lions Indomptables ont déjà réussi à se sortir de la phase de groupe et doivent continuer à y croire.
Bien sûr, et l'équipe n'est pas là par hasard. Et la nouvelle équipe qui dirige la FECAFOOT avait dit clairement son intention de relever le football féminin et elle lui a dégagé des moyens. Alors, ces jeunes filles que vous voyez là sont très, très motivées et leur résultat ne nous surprend pas, nous qui sommes ici au Cameroun. Bon, donc, elles rencontrent une montagne, bien sûr. Et le Brésil, ça, c'est une institution au niveau féminin et il y aura fort à faire. Surtout, ce sera une très belle opposition de style et où les Brésiliens vont présenter leurs qualités que nous connaissons tous, les qualités techniques, qu'elles soient individuelles ou collectives, face aux Camerounais qui devront plutôt jouer avec leurs propres qualités à elles, qui sont des qualités physiques, et essayer de fermer les espaces et surtout très bien gérer la rencontre au niveau du timing, comme ça a été le cas contre les Autrichiennes, c'est-à-dire éviter d'encaisser un but matinal. À partir de ce moment-là, elles auront toutes les chances de leur côté pour que les 30% des pronostics qui sont pour elles puissent peut-être les conduire à la victoire.
On espère bien cette victoire-là pour le Cameroun et l'Afrique Élysée. Une autre équipe attendue, c'est le Nigeria qui doit faire face au Japon et ce match se joue jeudi.
Et bien évidemment, les Nigérianes, les jeunes filles nigérianes qui ont fait forte sensation lors de leur dernier match en triant simplement le Venezuela 4-0. Mais en face, ce sera le Japon, équipe du football féminin. Le Japon, on ne peut pas négliger ce pays-là. Et donc, ça va être un peu compliqué. Mais comme ce sont les jeunes filles, le Nigeria a commencé par faire un travail à ce niveau-là, puisque au niveau des seniors, on voit clairement que le Nigeria ne domine plus correctement cette discipline aujourd'hui en Afrique, puisqu'il y a désormais l'Afrique du Sud et le Maroc. Donc, les Nigériens, ont commencé par faire un travail à la base et ça a commencé par se faire sentir. C'est vrai que après deux journées, eh bien, les pays africains étaient dans une mauvaise situation, mais après la troisième journée, et le Cameroun et le Nigeria se sont sortis du lot, même si le Ghana et le Maroc sont restés sur le carreau. Donc, en tout cas, on espère vivement avoir une très belle prestation des filles nigérianes face aux jeunes filles japonaises. En tout cas, le Nigeria de la matière, et on espère vivement avoir un représentant africain en quart de finale.
Et justement, le Maroc, Élisée, tu le disais, ne s'est pas tiré d'affaire dans un groupe assez difficile, mais il ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain, nous dit Amine Birouk.
C'est un zéro pointé pour l'équipe du Maroc U20 féminine. Il faut dire qu'elle n'avait pas été gâtée par le tirage au sort puisqu'elle se retrouvait avec deux des prétendants au sacre final, l'Espagne champion du monde en titre et les États-Unis. Mais il y avait une petite ouverture lors du premier match. Encore fallait-il se montrer réaliste face au Paraguay et surtout éviter quelques largesses défensives. Ça n'a pas été le cas et cette première défaite a conditionné la suite de la compétition parce que face aux États-Unis et surtout samedi face à l'Espagne, les jeunes joueuses marocaines n'ont fait que se défendre. Mention très bien pour la gardienne du but de cette équipe, Fatem Zahra Jebraoui, véritable héroïne des deux matchs. Face aux États-Unis, elle avait sorti des parades de folie. Elle a récidivé face à l'Espagne, notamment sur un pénalty qu'elle a réussi à arrêter avec un réflexe étonnant. Beaucoup de pain sur la planche puisque cette équipe U20 a du potentiel, des joueuses qui pourraient intégrer à terme l'équipe A. Certaines d'entre elles l'ont déjà fait, comme la jeune Yasmine Zouher. Mais la greffe Jorge Vilda à quelques semaines de la compétition n'a pas pris. Et il va falloir surtout, malgré ce zéro pointé, malgré le fait que l'équipe ait été fanée avec zéro but marqué pour 6 concédés, qu'on ne fasse pas table rase de tout ce qui a été entrepris en faveur du football féminin et des équipes nationales féminines, et notamment au niveau des jeunes. Car il y aura évidemment beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour rattraper ce handicap ou ce retard par rapport aux nations développées. Mais aujourd'hui, le Maroc a une structure et a surtout une culture de participation dans les grands championnats sur le plan féminin qu'il va falloir renouveler, perpétuer, histoire dans quelques années de passer ce cap du premier tour, y compris dans les Coupes du Monde U17 et U20.
Voilà, sans transition, nous enchaînons avec les Jeux paralympiques avant de boucler ce numéro d'Esporama. Après 2 semaines de compétition, ces Jeux d'été à Paris se sont refermés. Élisée, la dernière journée hier dimanche a été prolifique hein, pour l'Afrique.
Oui, avec 7 médailles au total, donc 3 en or, où on a vu quand même les Maghrébins s'illustrer clairement d'abord. Et l'Algérie, hein, d'abord l'Algérie qui a fait forte sensation en terminant en tête de nombre de médailles remportées à ces Jeux avec 11 médailles au total, 6 en or et 5 en argent. Il faut dire simplement, Yacouba, que les Algériens se sont bien illustrés, surtout les Marocains aussi qui n'ont pas démérité, puisque là on a vu clairement que chez au niveau des dames, eh bien, les Marocains ont fait le doublé au niveau du marathon T12 où simplement on a vu Fatima Azara
et justement
puis, en haltérophilie on a vu la Nigériane Olu Afemi Aoyo qui quand même s'impose dans la catégorie des plus de 87 kilos.
Tout à fait, Élisée.
Extraordinaire, Yacouba.
Élisée, bien évidemment, au total, le continent a engrangé 63 médailles. L'Algérie vient en tête, tu le disais, avec 11 médailles. 6 en or, 5 en bronze, suivi de la Tunisie et du Maroc. Et justement, parlant du Maroc, le bilan est positif pour le royaume chérifien, nous dit Amin Birouk.
Il y a un chiffre qui est très intéressant par rapport au Maroc. Hormis la 31e place au classement des médailles et les 15 médailles ramenées, dont 3 en or, 3 d'or, 6 d'argent et 6 en bronze, c'est que la délégation marocaine était composée de 38 champions paralympiques, dont une équipe de ces 6 foot avec 7 à 8 éléments. Autant dire que si on devait mettre de côté le 6 foot qui s'est classé 16e sur 8, sur les 30 autres participants, il y a eu une 15aine de médailles. Sans dire long sur le potentiel. Et certaines médailles d'argent auraient pu se transformer en médailles d'or. Donc mention très bien pour Emel Hedawi, qui a réussi à gagner une médaille d'or et une de bronze. Et sur sa médaille d'or sur le 400 mètres T47, il y a eu un record du monde à la clé. Le doublé avec Ayoub Sedni, qui a fini deuxième dans cette course. Et puis, mettre en relief également la performance de Fatem Zahra Idrissi sur le marathon féminin avant-dernière épreuve de ces Jeux paralympiques où elle a réussi à battre le record du monde, la pulvériser avec près de 3 minutes par rapport à la précédente performance. Mettre aussi en valeur la médaille d'argent de Mohamed Boujan sur le 400 mètres T12. Une autre fois, les coureurs marocains ont montré que à ce niveau-là, ils n'avaient rien envié à leurs adversaires. Et sur les 15 médailles du Maroc, il y a eu 11 en parathlétisme et 4 en parataekwondo. On va également peut-être rappeler que ces athlètes sont des modèles de résilience, de valeur, de courage. Et quel que soit le résultat, même s'ils étaient revenus au pays sans médaille ou sans consécration, on aurait applaudi à quatre mains tous les efforts qu'ils ont fournis pour pouvoir participer à ces Jeux paralympiques. Donc le Maroc finit 31e, 3e nation africaine. Et évidemment, la question qui se pose, c'est que le texte de loi au Maroc, la fameuse loi 3009, indique qu'il faut créer un comité national paralympique. Il n'existe toujours pas. Il n'y a qu'une seule fédération qui réunit tous ces sports paralympiques. Elle fonctionne avec un budget bien moindre par rapport à d'autres fédérations de valides, mais elle a le mérite, elle, de participer et surtout de faire honneur au pays et de ramener de très nombreuses médailles lors des Jeux paralympiques. D'Athènes 2004 jusqu'à Paris 2024, les Paralympiques ont toujours fait honneur au Royaume Chérif.
Voilà, fini donc les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Les prochains, c'est en 2028. Et tenez-vous bien ici, à Los Angeles, aux États-Unis donc. C'est ici aussi que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mkpatin, Valentin Ngoué, Amine Birouk et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute. Merci à Michel Joseph pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.